Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à tous les organisateurs, les organisatrices de ce colloque et surtout à Delphine et Sylvie. Alors, pour ma part, je ne parlerai pas de l'ensemble des textes qui régissent l'immigration en droit tunisien. Tout d'abord, faute de temps, je n'ai pas le temps de parler de tout. Et en plus, parce que on a beaucoup parlé de auparavant, on a beaucoup écrit, on a également commenté les textes qui concernent l'immigration irrégulière. Et spécialement la loi de 2004, dont on a beaucoup parlé ce matin, M. Cassarino en a parlé, Delphine également. Donc, je m'intéresserai plus spécialement à une question particulière, celle du droit d'asile. C'est ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est ce qui se pose, la question qui pose problème aujourd'hui aux autorités tunisiennes. Je vous ai distribué un petit plan, comme ça, ça facilitera le suivi de l'intervention. Et je commencerai par dire que la Tunisie a connu une situation nouvelle depuis 2011, qu'elle n'a jamais connue auparavant. La Tunisie a toujours été une terre de départ, de migration vers l'Europe. Elle a également été, depuis plusieurs décennies, un pays de transit pour les migrants subsahariens, essentiellement. Mais depuis 2011, la Tunisie a une configuration nouvelle, celle d'être éventuellement une terre d'accueil pour les migrants, essentiellement ceux qui fuient les conflits armés, c'est-à-dire ceux qui viennent de Libye et de Syrie pour les derniers mois et les dernières années. Alors depuis 2011, la Tunisie a dû accueillir entre le mois de février et le mois d'avril toutes les personnes qui avaient fui le conflit libyen. Près de 900 000 personnes sont arrivées en Tunisie durant cette période. Et on sait que l'accueil des réfugiés a été plus ou moins un succès. Parce que il y a eu un formidable élan de solidarité de la part des populations tunisiennes et un soutien important de la part du HCR et de l'OIM. Alors la plupart des personnes qui étaient entrées sur le territoire tunisien étaient de nationalité libyenne, mais peu de Libyens étaient dans les camps. Le fameux camp de Choucha qui a été monté par l'armée tunisienne avec l'aide du HCR bien entendu, a accueilli principalement ce que le HCR a appelé les nationaux des pays tiers. Alors la plupart de ces personnes ont été rapatriées vers leur pays d'origine, notamment avec l'aide de leur gouvernement respectif et de l'OIM. Après le rapatriement d'un nombre très important de personnes, il restait encore 4000 personnes sur le territoire tunisien à la fin de l'année 2011. Ces personnes étaient toujours rassemblées au camp de Choucha et la plupart d'entre eux ont pu bénéficier d'une réinstallation dans un pays tiers, essentiellement aux États-Unis, Australie, Canada, Europe et d'autres pays. Donc la grande crise que la Tunisie avait connue au début de l'année 2011 était passée. Alors en plus de la crise libyenne, c'est évidemment le conflit en Syrie qui a poussé plusieurs Syriens à venir en Tunisie. Le ministre des Affaires étrangères avait déclaré dans une interview récente en septembre 2015 que la Tunisie était prête à accueillir les réfugiés. Donc c'est une déclaration de bonne intention. Maintenant, il faut vérifier si cela peut se faire dans la réalité. Alors quelques précisions terminologiques maintenant. On parle de migrants, réfugiés, demandeurs d'asile. Le migrant est un concept générique qui peut englober toute personne qui change de pays, qui s'installe dans un autre pays, qui quitte son pays d'origine ou le pays dans lequel elle résidait pour aller dans un autre pays. Par contre, une terminologie un petit peu imprécise tourne autour du concept de réfugié. Les médias parlent de réfugiés. En droit, on parle aussi de réfugiés, demandeurs d'asile. Alors, on pourrait dire que deux approches principalement s'opposent. Il y a Une première approche consisterait à dire que le réfugié est la personne qui répond aux critères qui sont définis par les normes internationales, notamment la Convention de Genève, mais pas seulement la Convention de Genève. Et une autre approche consisterait à dire que le réfugié est la personne à laquelle une autorité compétente a reconnu ce statut, et notamment le HCR ou une autorité nationale. Alors, les deux approches ne coïncident forcément pas, parce qu'il peut y avoir une personne qui est réellement, dont la situation correspond aux normes, donc qui fuit un conflit ou qui fuit son pays en raison d'une persécution, en raison de la race, nationalité, idée politique ou autre, et ne pas être reconnue par l'autorité compétente. Tout simplement parce qu'elle n'en a pas fait la demande, ou elle craint de faire la demande, ou elle n'a pas la possibilité de prouver le bien fondé de sa demande. Le cas contraire est aussi possible. Il se peut qu'une personne soit reconnue comme étant réfugiée par l'autorité compétente, le HCR ou une autorité nationale, et ne pas être réellement réfugiée. C'est le cas de la personne qui passe par des manœuvres frauduleuses. Alors, qui sont aujourd'hui les réfugiés au sens des deux approches, c'est-à-dire le réfugié de fait, si on peut s'exprimer ainsi, et le réfugié de droit, qui sont les personnes que l'on peut estimer être ou que l'on peut considérer comme des réfugiés en Tunisie. Je pense qu'on pourrait les regrouper en trois grandes catégories. Il y a tout d'abord les personnes qui ont fui le conflit libyen, qui sont en général des personnes qui sont venues d'Afrique subsaharienne et qui étaient en Libye avant le déclenchement du conflit libyen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'entre eux ont été réinstallés dans des pays tiers. Certains d'entre eux ont obtenu le statut de réfugiés en Tunisie auprès du HCR. Ils ne sont pas très nombreux. Leur nombre s'élève seulement à 184 personnes au 1er septembre 2015. Et il y a parmi eux, enfin il y a à côté de ceux qui ont déjà obtenu le statut de réfugiés auprès du HCR, 138 demandeurs d'asile, c'est-à-dire que leurs dossiers sont encore en cours. D'autres se sont vus refuser le droit d'asile de la part du HCR. Ils sont estimés à peu près à, ils sont plusieurs centaines, 400 personnes. Les chiffres sont difficiles à obtenir. Hein. On les obtient comme ça, c'est vraiment du bouche à oreille. C'est des informations que l'on obtient auprès des personnes qui travaillent, par exemple au HCR, à l'OIM ou d'autres organisations. Alors la deuxième catégorie, ce sont les Libyens. Sont-ils des réfugiés? Ça pose problème. C'est pas évident. Un nombre important de Libyens, les Libyens ont continué à venir en Tunisie entre 2011 et jusqu'à il y a, en 2015. Et leur entrée sur le territoire tunisien, évidemment, varie en fonction de l'intensité des conflits que la Libye connaît. Ils sont estimés à 200 000 personnes aujourd'hui. Mais les personnes qui viennent de Libye ne sont pas considérées comme des réfugiés, eux-mêmes ne se considèrent pas comme des réfugiés, ils ne font pas de démarche auprès du HCR, les autorités tunisiennes refusent de les considérer comme des réfugiés et le HCR également. Pourquoi ? Pour deux raisons essentiellement, que je regrouperai deux raisons essentiellement, tout d'abord des raisons que l'on peut qualifier de politiques, parce que cela gêne les autorités tunisiennes de considérer les Libyens comme des réfugiés. Cela va crisper, entre autres, leurs relations avec les autorités libyennes. Il y a déjà des relations très tendues entre la Tunisie, entre les autorités tunisiennes et les autorités libyennes, et les Tunisiens ne voudraient pas crisper encore plus les relations en considérant une partie de la population comme étant des réfugiés. Cela signifierait qu'on ne peut plus vivre normalement en Libye. Alors la deuxième raison est une raison un peu juridique mais pas très claire, c'est parce que les Libyens font partie des accords de l'Union du Maghreb arabe et qu'ils bénéficient d'une certaine liberté de séjour et de circulation en Tunisie et entre les cinq pays du Maghreb. Donc en réalité, ils n'ont pas besoin de visa. Et ils entrent librement sur le territoire tunisien munis seulement d'un document d'identité. Alors normalement, ils devraient au bout de 3 mois obtenir une carte de séjour. Ils ne le font pas. Seuls une centaine de Libyens, d'après les informations que j'ai pu recueillir auprès des praticiens, une centaine de Libyens seulement auraient une carte de séjour, ce qui est insensé. Les autres, alors, soit sont tolérés, ils ne sont pas interceptés par la police, ils ne sont pas dans les, ils sont pas emprisonnés, même lorsque leur séjour dépasse les 3 mois, parce qu'au bout de 3 mois, normalement, chaque étranger devrait avoir un titre de séjour régulier. Il y a aussi le phénomène de la proximité de la frontière qui explique qu'un aller-retour rapide peut permettre aux Libyens d'être en règle vis-à-vis des autorités tunisiennes. J'ai même entendu parler d'un cas dont j'ai parlé à mon ami et collègue Hassan Boubakri ce matin, d'un accord, enfin, un trafic qui consisterait à, pour un père de famille, par exemple, à emmener tous les passeports de sa famille, femme, enfant, cousin éventuellement, à aller au poste frontière le plus proche, à faire tamponner les passeports et ramener les passeports sans qu'il y ait réellement franchissement de la frontière. Donc c'est un trafic qui permet tout simplement d'avoir un tampon sur le passeport et de permettre à la personne de partir encore pour 3 mois dans une régularité fictive, quoi, en quelque sorte frauduleuse. Alors enfin, troisième catégorie, c'est les Syriens qui, eux, contrairement aux Libyens, ne bénéficient pas des facilités de séjour, de circulation, etc. Ils sont soumis à l'obligation d'obtenir un visa. Et d'après une étude, on n'a pas de chiffres exacts, et d'après une étude récente, il serait actuellement 9000 personnes. Parmi les 9000 personnes, seules 606 personnes ont obtenu le certificat de réfugié auprès du HCR. Donc c'est très très peu. Ce sont des chiffres qui datent du 1er septembre 2015. Donc sur les 9000 Syriens, 600 personnes seulement, 606 personnes ont obtenu le certificat de réfugié. Alors, donc voilà l'état général de la situation des réfugiés en Tunisie. Alors on peut dire que la situation, tant au niveau des faits qu'au niveau des textes juridiques, reste très mal adaptée. Le cadre juridique et sociopolitique tunisien reste très mal adapté à l'accueil des migrants en général et des réfugiés en particulier, parce que le statut de réfugié ou la situation de réfugié vient se greffer sur un statut déjà précaire, déjà flou, soumis à des dispositions restrictives. Il s'agit du statut de l'étranger en général et du migrant en particulier. J'examinerai le droit d'asile dans les faits, dans la réalité, et ensuite le droit d'asile dans les textes de droit. Alors le droit d'asile ou l'asile dans les faits, c'est peut-être pas très judicieux de parler de droit d'asile dans les faits, c'est l'asile, c'est la gestion de la part du HCR, des associations, etc. Alors on peut dire que le rôle du HCR est très important, et aujourd'hui, le HCR, après avoir travaillé plusieurs années dans l'ombre, avant 2011, a eu enfin en juin 2011, un accord de siège a été conclu entre le HCR et les autorités tunisiennes. Donc le HCR travaille aujourd'hui de façon visible et de façon déclarée. Il travaille en étroite collaboration avec le Croissant Rouge tunisien. Donc à l'arrivée des réfugiés, c'est le Croissant Rouge qui s'occupe de prend en charge l'enregistrement des réfugiés, et ensuite il transmet la demande au HCR, et une procédure assez rapide consiste pour le HCR à examiner les demandes et à statuer sur la demande, et bien évidemment la personne doit prouver le bien fondé de sa demande pour demander le statut de réfugié. Alors deux possibilités évidemment, soit une réponse positive, soit une réponse négative. La décision du HCR est donc très importante. Alors si la personne est reconnue comme étant un réfugié, elle se verra attribuer un certificat de réfugié et un ensemble d'aides, une aide de la part du HCR. Alors, ce qu'il y a de problématique ici, c'est que l'obtention du certificat de réfugié ne donne pas droit à la carte de séjour, parce qu'il n'y a pas en droit tunisien une rubrique ou une carte de séjour humanitaire. Il y a deux types de cartes de séjour sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, la carte de séjour temporaire et la carte de séjour ordinaire, et le réfugié ne rentre pas dans l'une des deux catégories qui sont déjà prévues. Évidemment, une personne sans carte de séjour trouvera les plus grandes difficultés, même au niveau des actes les plus anodins de la vie quotidienne, ouvrir un compte bancaire, accès à un logement, un bail, soins au niveau de l'hôpital, réception d'un colis, etc., etc., franchissement de la frontière, et ainsi de suite. Alors, les personnes enregistrées auprès du HCR comme réfugiées bénéficient, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une aide. Alors, il y a d'abord une aide financière de la part du HCR qui donne à peu près 320 dinars tunisiens, donc l'équivalent du SMIC tunisien. Et le HCR prend également prend en charge la scolarité des enfants, certains soins pour ceux qui bénéficient du statut de réfugié, bien évidemment. Le HCR essaye aussi de trouver, d'encourager une insertion professionnelle de ces personnes en trouvant des petits boulots. C'est souvent dans l'informel, c'est souvent du travail au noir parce que justement ces personnes n'ont pas de carte de séjour. L'insertion des réfugiés éduqués est beaucoup plus problématique. Avocats, architectes, médecins qui étaient en Libye notamment avant le conflit. Il y a beaucoup d'obstacles de nature juridique comme par exemple... je prends un exemple parmi d'autres, l'exercice de la profession d'avocat qui est réservé aux nationaux et aux étrangers qui ont des accords bilatéraux avec la Tunisie, ce qui n'est pas le cas des Syriens. Voilà un exemple parmi d'autres, même chose pour les médecins, architectes, etc. Maintenant, si le HCR donne une réponse négative, donc la personne se retrouve dans une situation de non-droit, c'est ce qu'on appelle les déboutés du droit d'asile. Les déboutés du droit d'asile, leur nombre est difficile à connaître aujourd'hui, on parle de 400 personnes environ. Alors leur situation est vraiment problématique parce qu'ils sont dans une situation de non-droit. Ce ne sont pas des migrants économiques, ils sont dans une situation irrégulière. Et on peut dire, pour résumer, que les déboutés du droit d'asile risquent de problèmes, ils connaissent deux risques majeurs, la détention et l'expulsion. La détention qui n'est pas réglementée de façon très claire. Il y a un centre, le centre de Ouardéia, que beaucoup de personnes connaissent. C'est un grand centre de détention des étrangers en situation irrégulière et notamment des personnes qui sont arrivées de Libye et qui sont en réalité des réfugiés. Ils ont fui le conflit armé. Donc ce ne sont pas des migrants économiques, ce sont des réfugiés auxquels on n'a pas voulu reconnaître le statut de réfugié. Deuxième gros problème, évidemment, c'est l'expulsion. Et là, je voudrais apporter le témoignage qui a été rapporté par une journaliste tunisienne, le témoignage de Bright Samson. C'est un migrant originaire du Nigeria qui s'est vu refuser le droit d'asile. Il a fui la guerre en Libye à partir de février 2011. Il a vécu dans le camp de Choucha de nombreuses années. Il était détenu depuis le 24 août 2015 dans le centre de rétention ou de détention de El Ouardéia. Et le 2 septembre 2015, les forces de l'ordre sont venues chercher Bright avec 12 autres personnes et les ont emmenés de force vers la frontière algérienne auprès du poste frontalier de Bouchetka. Alors 4 parmi le groupe des 13 personnes, 4 sont entrées sur le territoire algérien et les autres ont été livrés à eux-mêmes comme ça, sans aucune protection. Bright est revenu et il est entré en contact notamment avec plusieurs associations tunisiennes, notamment avec Martina Tazioli qui est là et qui a dénoncé dans un travail remarquable qu'elle a fait sur les déboutés du droit d'asile. Elle est chercheuse italienne, elle travaille sur la Tunisie et elle a dénoncé la situation et les expulsions qui sont apparemment une pratique peu connue de la part de ceux qui s'intéressent à la question migratoire. Donc voilà ce qui est maintenant ce qui doit être le droit. Mais même le droit ici reste très insuffisant, comme on va le voir dans cette seconde partie. Alors, le droit d'asile... Il me reste combien de temps ? 3 minutes. Ah, 3 minutes, oui, c'est dommage parce que c'est...
Ça serait très strict.
Je vous remercie pour votre tolérance. Alors le droit, je commencerai par les textes fondamentaux. Bien sûr, la Tunisie fait partie de la Convention de Genève, des instruments internationaux. Elle est signataire de la Convention de Genève depuis 1957. Elle est également partie à l'ensemble des... Elle fait partie de l'ensemble des... Elle a adhéré aux textes qui concernent indirectement le droit des réfugiés, comme les pactes des Nations Unies, la Convention sur l'élimination des formes de discrimination à l'égard des femmes, etc. Pour la Constitution, l'ancienne Constitution tunisienne de 1959 se contentait d'interdire l'extradition des réfugiés politiques. La Constitution de 2014 a garanti, dans son article 26, l'asile politique. Enfin, et le terme d'asile politique pose problème, et il aurait fallu garantir le droit d'asile, tout simplement. Maintenant, le projet de loi, ce qui nous reste, évidemment, au niveau de l'écrit, j'ai développé pas mal de questions, de critiques à l'égard de ce projet de loi. Ce qu'on peut dire, c'est que le projet de loi de 2014 sur le droit d'asile, ça fait 2 ans qu'il est à l'état de projet, il n'a pas été déposé auprès de l'Assemblée des représentants du peuple pour le vote. Et on peut dire en gros que d'abord c'est une copie de la Convention de Genève et deuxièmement qu'il est très décevant. Alors, je parlerai rapidement tout d'abord de l'attribution et du retrait de la qualité de réfugié. Pour l'attribution, il y a une procédure assez rapide qui est prévue par le décret d'application de ce texte. Et la procédure se passe devant une instance qui sera apparemment créée si elle voit le jour un jour, c'est l'instance nationale de protection des réfugiés. Il y a un délai d'un mois maximum pour que cette instance réponde à la demande adressée par la personne elle-même, par son représentant ou par le délégué à la protection de l'enfant pour les mineurs. Alors, à l'issue de cette procédure, il y aura soit la reconnaissance de la qualité de réfugié, soit le refus. Alors, il y a aussi un problème par rapport à la définition du réfugié parce que le texte du projet de loi a repris la définition de la Convention de Genève qui elle-même est très restrictive, comme vous le savez. Il faut que la personne soit persécutée pour des raisons qui concernent son appartenance raciale, religieuse, etc. Et le législateur tunisien aurait pu là se tourner vers la Convention africaine, la Convention de l'Union africaine sur le statut de réfugié qui, elle, comporte une définition plus large, ou alors on aurait pu prévoir une protection secondaire comme la protection subsidiaire du droit français ou la protection subsidiaire du droit belge également. Maintenant, pour le retrait de la qualité de réfugié, on a également repris la Convention de Genève. Concernant les droits des réfugiés, on peut les classer en 2 grandes catégories. Pour certains droits, le réfugié est assimilé aux nationaux pour ce qu'on appelle les droits fondamentaux de la personne humaine et notamment, par exemple, la liberté religieuse, l'accès à la justice, le droit à l'assistance et à l'aide générale, le droit à l'enseignement de base, donc ce sont les droits fondamentaux de la personne humaine et pour lesquels le réfugié est assimilé au national. Là aussi, c'est la Convention de Genève. Et par contre, pour d'autres questions, le réfugié est assimilé aux étrangers et notamment au niveau de la question du séjour, de la liberté de déplacement, l'exercice des professions libérales, le droit au travail, l'exercice des les droits par rapport à la sécurité sociale, etc. Alors le texte est lacunaire et il n'a pas prévu et il n'a pas réglementé 2 questions essentielles, à savoir le passage, c'est-à-dire l'accès au séjour régulier, il n'y a rien dans le projet de loi et il n'a rien prévu non plus sur le regroupement familial. Maintenant, pour ce qui est, il y a aussi des droits spécifiques, des privilèges qui sont donnés aux réfugiés par rapport aux nationaux du même pays. Et notamment, il y a ce qu'on appelle la dispense des mesures exceptionnelles. Ça veut dire que quand les étrangers d'un pays donné font l'objet de mesures exceptionnelles, le réfugié n'est pas soumis à ces mesures exceptionnelles, c'est un régime de faveur. Enfin, pour les obligations, je vais passer vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, le projet de loi met à la charge du réfugié certaines obligations qui peuvent être classées en deux catégories essentiellement. Tout d'abord, il y a des obligations relatives à l'information que le réfugié est tenu de communiquer à l'instance nationale de protection des réfugiés. En ce qui concerne sa situation sociale, le nombre de des enfants, l'employeur, le changement d'adresse, etc. Et puis, il y a un article 18 qui prévoit que le réfugié doit s'abstenir d'exercer toute activité politique individuellement ou collectivement et ne doit effectuer aucun acte de nature à porter atteinte aux intérêts de la Tunisie. Voilà donc vraiment un résumé de ce que j'avais préparé et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci à vous.